On a passé une partie de la journée à essayer j'ai essayé de comprendre. Ça fait un peu prétentieux. Hein? Il y a des affaires qu'on ne pourra jamais comprendre, mais essayez de vous fournir le plus de renseignements possible sur le terrible meurtre qui s'est produit à Sainte-Foy, à l'hôtel Sépia, une jeune fille de 22 ans qui a été assassinée sauvagement par un individu qui venait à peine de sortir de prison au mois d'octobre.
En semi-liberté depuis mars dernier, en fait.
Parce qu'au départ, on pensait tous
qu'il était en liberté conditionnelle depuis octobre, parce qu'il était admissible à ce moment-là, mais en fait, ça lui a été refusé. Mais il est en semi-liberté depuis mars 2019.
Voilà. Et surtout, un individu qui avait déjà tué une femme. Un autre acte d'une violence inouïe, c'était sa conjointe à l'époque, à coups de marteau. Et là, cette fois-ci, c'est avec un couteau.
Une arme blanche.
On dit arme blanche, on n'a pas donné plus de précision.
Couteau.
Que le meurtre a été commis, donc à Sainte-Foy. Volontairement, on va parler du meurtrier tantôt. On a des informations à vous donner. Je ne sais pas si c'est exclusif ou pas. Là, moi, je ne cours pas après les scoops dans ce genre d'affaires-là. Mais on a travaillé, on a des choses à vous dire sur l'individu en question, sur ce monstre-là. On a aussi... Mais je vais commencer avec ça. On va parler avec... Par vous parler de la jeune femme de 22 ans, la victime. Élisabeth, t'as jasé avec sa meilleure amie et sa marraine.
Et sa marraine. Parce que tout ce qu'on voyait circuler sur cette jeune femme-là, c'était tout par rapport à son travail, ce qu'elle faisait dans la vie. Puis moi, je trouvais qu'on passait à côté de quelque chose parce qu'elle, elle avait des amis, elle avait une famille, elle était quelqu'un au-delà d'être une travailleuse du sexe. Mais ça, j'ai l'impression qu'on a un petit peu passé à côté.
Moi, quand j'ai vu la manchette, c'est un journal, ça aurait pu être un nom, pas le nommer, là. Mais c'est la grosse manchette, là. La victime du meurtre à Sainte-Foy, c'était une travailleuse du sexe.
Ouais.
Pour sa meilleure amie, c'est pas une travailleuse du sexe. Ni pour sa marraine.
Non.
C'était une jeune fille de 22 ans avec des rêves, avec la vie devant elle, oui, elle faisait ça. C'est correct de le dire. Ça fait partie de l'histoire. Mais t'as raison, c'est pas juste ça, là.
Ouais. Fait que la question, je l'aurais posée, mais je vais vous lire la réponse. C'est très clair. C'est, parlez-moi d'elle. Quel genre de fille c'était? C'était qui pour vous, Marilyn Lévesque?
Ouais.
On va commencer par sa marraine. Elle dit, c'est un petit rayon de soleil, toujours souriante, le cœur sur la main pour tous les gens qu'elle aime. Elle n'avait aucune malice, aucun jugement. Elle adore les animaux et la nature. On faisait du ski ensemble, du patin, des randonnées. D'ailleurs, on était supposé aller au village sur glace de Robertval demain, avec son chum et ma fille.
Elle avait ça de prévu?
Oui.
Demain?
Elle aime la plage et les voyages. Elle avait beaucoup de nouveaux projets pour l'année 2020. C'est une jeune femme merveilleuse avec un cœur en or.
C'est sûr que ça fait des manchettes moins vendeurs que c'était une travailleuse du sexe. Mais c'était ça, Marilyn Lévesque.
Oui.
Bien plus, là, que ce qu'elle faisait, je pense, une fois ou deux semaines au salon de massage, là. Regarde.
Ensuite,
tu sais, quand je disais, elle avait la vie devant elle, là, avec des rêves, avec tout ça. Ensuite, elle jasait avec sa meilleure amie.
Oui, celle-là, sa meilleure amie a été beaucoup plus en détail avec son message sur Marilyn. Alors, je vais lire au complet parce que ça vaut la peine. C'était une femme incroyable, toujours pleine d'énergie, avec un charme incroyable, surtout avec son accent du Saguenay vraiment présent. Elle était énormément présente pour tous les gens qui l'entouraient. C'était une personne très proche de ses émotions. Elle avait un caractère fort, mais qui l'a aidée à passer au travers toutes les étapes de sa vie et qui nous faisait encore plus apprécier la personne qu'elle était. Elle avait énormément de réparties et maudit qu'elle était drôle. Passer une soirée avec Marilyn pouvait remonter le moral de n'importe qui. Elle l'a jamais eu facile dans sa jeunesse. Elle s'est ramassée toute seule contre le monde entier vraiment tôt dans sa vie. Ça a été vraiment difficile, mais elle s'en est sortie comme elle le pouvait. Beaucoup de gens peuvent juger ce qu'elle faisait comme travail parce qu'ils peuvent pas comprendre ce qui l'a menée là-dedans. Personne peut comprendre ce que les autres peuvent vivre. Elle n'était pas escorte, elle l'a jamais été. Beaucoup plus de gens pensent que travailleuse du sexe, c'est nécessairement une prostituée. Mais c'était pas le cas. Elle faisait des massages érotiques. Elle a toujours parlé de son travail pour tout dédramatiser et faire comprendre aux gens qu'elle se faisait pas exploiter. C'est elle qui avait le gros bout du bâton.
Ça, c'est une nuance importante. Ça fait aussi partie de l'histoire. Là, je veux pas trop m'étendre là-dessus parce qu'on l'a dit tantôt, c'était beaucoup plus que ça, Marilyn.
Oui.
Mais les salons de massage, c'est légal. Là. Vous pouvez avoir un jugement moral là-dessus. Je vous respecte. Genre, vous êtes contre pour X raisons, je ne veux même pas embarquer là-dedans. Mais sachez que dans la société d'aujourd'hui, j'insiste, c'est légal. Oh non, c'est semi-légal. Non, 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 là. La police de Québec connaît toutes les adresses des salons de massage. Et ils opèrent tous.
Il n'y a rien de secret là-dedans. Là.
À visage découvert.
Non.
OK? Alors, c'est rendu légal aujourd'hui dans la société. Bon.
Ensuite, elle poursuit en disant qu'elle avait un chum incroyable qui a toujours été là pour la supporter. Depuis quelque temps, ils réfléchissaient peut-être pour avoir un enfant ensemble. Mais maintenant, c'est plus possible parce qu'un homme a enlevé la vie à une femme qui avait de l'avenir devant elle, qui voulait se placer correctement dans la vie parce qu'elle savait très bien que c'était pas ça sa vraie vie plus tard. Et là, ensuite, étant donné qu'elle avait dit que c'était pas une escorte, elle l'a jamais été, j'ai voulu savoir si sa meilleure amie était au courant qu'elle voyait un client en dehors du salon de massage en tant que tel.
Oui, parce que c'est ça qui l'a amené au motel voilà. À Sainte-Foy, là. Oui.
Elle m'a répondu, j'ai habité avec elle pendant 6 mois cet été. Elle l'avait jamais fait. Elle avait jamais fait ça. Alors oui, j'étais surprise de voir qu'elle l'avait fait avant-hier, parce que jamais qu'elle prenait des risques comme ça. Elle avait d'ailleurs diminué ses activités au salon de massage en tant que tel, dans le but d'arrêter complètement éventuellement. Mais quand t'es dans ce monde-là, c'est difficile d'arrêter complètement du jour au lendemain, parce que tu vis déjà selon ce mode de vie-là. Le fait qu'elle ait décidé de déménager au Saguenay démontrait un avancement parce qu'elle était déjà installée à Québec pour ce travail-là et là, elle avait décidé de déménager. Je savais qu'elle voulait quitter ce monde-là. Et là, elle dit, elle l'a fait seulement cette fois-ci avec cet homme-là parce qu'il lui avait proposé énormément d'argent pour l'avoir en dehors et qu'il avait été banni du salon de massage en tant que tel. L'argent qu'il allait lui donner allait lui permettre de prendre congé pendant de nombreuses semaines.
Bon.
Et puis, voilà, elle dit qu'en tant que telle, dans son entourage, personne n'était au courant, à part une seule personne. C'était ouais. L'ami chez qui elle habitait qu'elle allait voir ce gars-là.
De toute façon, moi, ça me tente pas, si vous voulez le faire, là, de commencer à fouiller puis faire un grand débat sur les salons de massage puis comment ça marche. Puis pour moi, c'est Marilyn, c'est bien plus. Elle voulait avoir des enfants. Elle devait aller à Roberval en fin de semaine s'amuser sur la glace au village. Ouais. Puis c'est... je pense que c'est bien d'entendre ça. Ça met plus qu'un nom, plus qu'un visage, puis un métier. Oui. C'est pas juste le nom, la face qu'on a vue, puis le salon de massage, puis tout ça, là. C'est une jeune fille avec la vie devant elle qui l'a pas eu facile jeune, mais qui l'a... Et une vie qui s'est terminée beaucoup trop tôt dans des conditions sauvages, violentes, épouvantables, parce qu'un individu qui devait être en dedans était dehors. Et c'est cet angle-là, moi, que je veux aborder avec vous autres après-midi. Bon, si vous voulez faire le débat sur les salons de massage, c'est pas inintéressant, là, je veux pas. Mais moi, je vois pas qu'est-ce que ça a à faire vraiment dans l'histoire.
Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que d'abord, c'était même pas dans le contexte du salon de massage, c'était à l'extérieur. Il y a l'aspect de l'individu qui était dehors. Puis tout ce que ça fait de mettre l'accent sur les salons de massage, c'est exciter les commentaires épouvantables qu'on voit sur les réseaux
comme
sociaux.
Quoi? Ah, il y en a, là.
Ah, ouais. Là, quand tu joues avec le. Attends, écoute ça. Steven, quand tu joues avec le feu, faut que tu attendes à te brûler.
Oh.
C'est que ça, là. Je veux dire, je pourrais t'en aller.
Le reste, non,
ça vaut pas la peine, là.
Ouais, ça va être beau.
Mais c'est dans ce genre-là, il y en a une tonne.
Le meurtrier, la première fois, il a tué sa conjointe. Oui. C'est sa femme.
C'est sa femme.
Fait que ça aurait pu être une nouvelle connaissance, une blonde, une fille qu'il rencontre au travail, dans la rue, ça aurait pu être n'importe qui. Bon, ça a tombé que c'est elle. Mais faisons pas le procès de la victime. On fait souvent ça au Québec. Oui. Les critiques, ça se ramasse. On met une étiquette, puis là, c'est la victime. Moi, j'embarque pas là-dedans.
Ouais. Puis une dernière petite chose que je veux ajouter, parce que Marilyn avait 22 ans quand elle est décédée, puis son ami qui a parlé au soleil a mentionné que ça faisait quelques années qu'elle traînait dans le milieu des salons de massage, et sa meilleure amie m'a dit, oubliez pas qu'au moment où tout le monde a des parents pour se guider dans la vie, elle en avait pas. Elle était toute seule.
Ouais, c'est ce qu'on a eu de plusieurs sources.
Ouais.
C'est ramassé en appartement très, très tôt.
Très jeune.
Pas de parents pour des raisons que là, regarde, on sait pas, puis on n'a peut-être pas à connaître, mais elle l'a pas eu facile. Elle l'a pas eu facile. Mais là, elle a commencé à s'en tirer. Ça allait bien en amour. Pensait avoir des enfants, des rêves, tout ça. Et bang!
Puis elle avait des...
Un mardi, ça s'est passé?
Mercredi soir.
Un mercredi soir, au motel Sepia, oui. À Sainte-Foy, sa vie s'est terminée dans le sang, dans des conditions épouvantables, avec un monstre et un couteau. C'est là que ça s'est fini. Alors, ce qu'il faut questionner, selon moi, c'est pourquoi il était dehors, ce monstre-là. Parce qu'il n'avait pas l'air d'un monstre. Il n'y avait pas une face de monstre. Et là, on va vous parler de lui un peu maintenant. Jasé était donc en semi-liberté depuis le mois de mars. Parce que des gens à qui on ne peut pas parler, qui sont intouchables en haut, en avaient décidé ainsi. On reviendra là-dessus tantôt avec un témoignage du sénateur Boisvenu. Parlons maintenant du meurtrier. T'as jasé avec son employeur le plus récent,
oui.
Parce qu'il travaillait dans un restaurant du Vieux-Québec.
Oui.
On le nommera pas,
non.
Ni le restaurateur, ni le restaurant. S'il y en a d'autres qui décident de le faire, c'est vous. Moi, c'est non. Parce que ça n'a rien à voir dans l'histoire. Et il se sent dévasté, troublé. Élisabeth.
Bon, ce que je peux vous dire, c'est que le propriétaire l'a embauché pour lui donner une chance parce qu'il connaissait les parents de cet homme-là. Alors, il dit, son père, c'est un ami à moi depuis très longtemps. Et il dit, lui semblait être quelqu'un qui voulait s'en sortir. Il semblait être de bonne foi. Il semblait avoir de bonnes intentions. Alors, je l'ai aidé. Je lui ai donné un coup de main. Mais il a fini par partir de lui-même après quelques mois parce qu'il disait qu'il dormait pas assez puis il était pas capable de suivre la cadence. Mais dans les faits, c'est pas moi qui l'ai mis dehors, c'est lui qui est parti. Il était juste pas capable de suivre. Et t'sais, évidemment...
Une fois qu'un gars est dehors, toi, tu penses que la société, notre système de justice, les bons fonctionnaires, les commissaires, ils ont fait le job, là. C'est pas à toi de faire le jugement. Je le comprends, ce restaurateur-là. Moi, je le juge pas. Il connaît ses vieux parents de 90 ans et plus, je pense, là. C'était bon. Depuis longtemps, il a voulu donner une chance en se disant, s'il est dehors, parce qu'il est guéri, il est surveillé, puis c'est correct. Lui, il connaît pas tous les détails, là, hein, de son passé. Mais moi, du monde qui donne des chances, en général, à ceux qui sortent de prison, êtes-vous pour ou contre ça?
Mais oui, c'est sûr.
C'est sûr qu'on est beau.
Eh oui, alors imaginez comment il réagit maintenant.
Ben, il est dévasté, ça, il l'a dit plusieurs fois quand je lui ai parlé. Il est complètement, complètement dévasté. Mais c'est surtout parce qu'il dit, moi, cette famille-là, je la connais depuis très longtemps. Lui, personnellement, un petit peu moins. Moi, j'étais très amie avec ses parents, avec son père surtout. Mais la famille en tant que telle, ça fait longtemps que je les connais. Moi, j'ai juste voulu donner un coup de main à ce petit gars-là.
Ouais, sans ben, ce petit gars-là, je veux dire, dans le sens cet individu-là.
Ouais.
D'autres, ils sont très bien connus dans le monde de la restauration.
Oui.
Au niveau de la famille également. Il y a des gens qui ont été propriétaires d'établissements que je nommerai pas parce que là, ça pointe du doigt des gens qui ont rien à voir. Là. Sa famille, ils ont rien à voir. Les gens qui l'ont embauché, le responsable, c'est lui et ceux qui l'ont mis dehors. Moi, je vais pas plus loin que ça, puis j'ai pas envie de beurrer puis de dire, regarde.
Pis juste préciser, j'ai dit ce petit gars-là parce qu'il l'a connu très jeune, lui, parce qu'il connaît les parents depuis très longtemps. Ouais. Fait que ça, c'était pas un bon choix de mots parce que c'est un homme d'une cinquantaine d'années.
Mais c'est correct.
Mais,
il était dehors. Regarde, lui, il s'est dit, c'est beau, s'il y a eu sa sortie, c'est parce qu'ils ont évalué qu'il était plus dangereux, je lui donne une chance. Ce qui fait que je lui ai serré la main. Je vous en ai parlé ce matin, il n'y a pas longtemps. Il m'a servi à une ou deux reprises dans ce restaurant-là parce que je le fréquente depuis longtemps. C'est un bon établissement. Alors, on l'a croisé ce matin, on était un peu entre amis. On s'est tous téléphoné, texté. As-tu vu? Moi, je comprenais pas. Je n'ai parlé hier en masse de cette histoire-là, mais as-tu vu la face? Mais oui, mais tu le reconnais pas, Sylvain? Moi, j'y vais au restaurant assez souvent, mais eux, plus souvent encore. Voyons, c'est son surnom, en tout cas, il l'appelait Estac, Estachio, mais c'était Estac.
En prison, c'était ça aussi.
Ouais, c'est ça, hein? Bon, Stack ou Estac. Ouais, moi, j'allume pas. Hein? Lui! Je fais comme, il m'a servi, il n'a pas longtemps, il m'a... Ben oui, c'est ça. Au cinéma, là, les monstres ont des faces de monstres. Mine patibulaire, hein, les traits noirs, on les reconnaît, là. Tu sais, des fois, ils ont un masque, ils ont une cicatrice, ils manquent quasiment juste les cornes, puis...
Ils manquent des dents, là, ouais, c'est tout le temps.
Ça, c'est le cinéma.
Tout le temps.
Dans la vraie vie, les amis, c'est pour ça que ça nous prend un bon système de justice. Des fois, ils ont des faces... normal, après coup, là, on les trouve mauvais en les regardant. Je suis sûr qu'en voyant sa photo, vous l'avez tout trouvé louche et mauvais. Mais moi, je vous dis que dans le resto, il avait l'air comme n'importe qui. Moi-même, aller plus loin que ça, j'ai su par d'autres amis qu'il achetait des trucs pour des gens autour de lui. Je donne pas trop d'infos, mais des gens malades. Des gens malades autour de lui, puis il lui donnait des cadeaux. Et la dernière fois qu'il nous a servi, quand il est parti, là, à la table, là, on a tous dit, quel bon gars. J'ai dit ça, moi. J'ai dit, hey, quel bon gars. Enfin, tout ce que je sais, c'est que je suis pas au courant de son passé judiciaire. Rien. Comprenez-moi bien, là. Mais on sait qu'il achète des cadeaux à du monde malade. Vous auriez fait quoi? Hein?
Bon gars. Même affaire.
Hein? Bon gars. Pour vous dire comment, quand on le sait déjà que les monstres sont durs à détecter, les salauds, les assassins, quand t'as déjà tué une femme, il y a une quinzaine d'années, à coups de marteau d'une violence inouïe, comment on peut être assez cave, innocent, aveugle, complice? Là, je vais loin, mais presque. Négligent criminel pour laisser un gars de main dehors alors qu'il représente encore un risque. Ouais, mais c'était modéré. L'aurais-tu pris à côté de chez vous? J'ai déjà dit ça en nombre, moi, à boutade. Évidemment, c'est une boutade, là. Les commissaires aux libérations conditionnelles, quand ils libèrent du monde, là, ils devraient mettre les maisons de transition, savez-vous, à côté de leur maison. Ah, tu le libères? Il va être à côté de chez vous. Ah, là, c'est plus pareil. Le risque modéré, moi, ça me tente pas. Évidemment, les maisons de transition et autres, on sait où ils sont à Québec. Ils sont pas à Sillery. Ils sont pas à Cap-Rouge. Il n'y a rien contre ces places-là. Là. Mais ils sont dans Saint-Sauveur ou dans Saint-Roch. Je connais les adresses. Fait que c'est là, on les... D'ailleurs, tu sais, on a parlé à plein de monde. La marraine, la mère... La meilleure amie, la marraine. T'as jasé avec son employeur le plus récent. Tout du monde dévasté d'un bord ou de l'autre, là. Qu'importe, là, évidemment, d'abord les proches des victimes, mais ceux qui ont côtoyé le tueur sont bons. Ceux à qui on ne parle pas aujourd'hui, je veux juste le mentionner, là, tous les médias, là, c'est eux les plus importants. Avez-vous un nom? Avez-vous un visage? Avez-vous? Qui c'est qui l'ont libéré? J'en ai aucune idée, je suis pas capable de parler. Ils sont intouchables, en haut de la pyramide. Ils sont nommés par qui? Dans quelles conditions? C'est-tu politique? Je sais pas. Eux, tant qu'ils seront pas redevable envers la population, là. Tant qu'on pourra pas les questionner, ça va continuer.
Et je veux vous le souligner parce qu'il y a plusieurs auditeurs qui nous soulignent au 25-226. Vous vous souvenez du jeune Alexandre Livernoche qui avait été enlevé au mois d'août à l'an 2000. Il avait été retrouvé mort 5 jours plus tard. Il avait été agressé sexuellement et tué par Mario Bastien. Mario Bastien avait été arrêté de nombreuses fois par le passé. Il était qualifié de pédophile dangereux. La dernière fois qu'il avait été arrêté, c'était le 21 janvier de l'an 2000. Libéré 2 mois plus tard, en mars 2000. Et il a tué Alexandre Livernoche au mois d'août 2000. Et je veux juste vous dire qu'au prononcé de la sentence, le juge, qui était Régent Paul à l'époque, avait indiqué qu'au moment de l'assassinat, ce meurtrier-là n'aurait jamais dû être en liberté conditionnelle. Est-ce que c'est le genre de parole qu'on va avoir?
Le meurtrier, Sainte-Foy, n'aurait jamais dû être en...
Est-ce que le juge va le dire?
Être en liberté, peut-être.
J'espère que
le
juge va le dire.
La face, c'est qu'on n'a pas le face. On ne sait pas c'est qui. On a un rapport, mais... Ces gens-là, là, je veux pas leur en vouloir personnellement, c'est peut-être le système qui fait en sorte qu'ils ont pas le choix. Mais on peut-tu leur parler? Est-ce que leur boss les a rencontrés dans les dernières heures? Est-ce qu'ils sont interrogés? Est-ce qu'ils doivent rendre des comptes à quelqu'un? Pas à moi, là, je suis rien, moi, là, là. Mais comment le système fonctionne? Je suis même pas capable de le savoir. Le sénateur Hugues Boisvenu.
Pierre-Hugues Boisvenu, oui.
Pierre-Hugues Boisvenu s'est prononcé là-dessus sur l'heure du midi.
Oui.
Jean-Simon va nous résumer ça. Lui aussi a perdu sa fille Isabelle.
Absolument.
Tuée par un récidiviste en liberté.
Et lui, il martèle le même message depuis 2002. Et c'est ça que vous allez entendre dans l'extrait suivant. Pourquoi c'est hermétique? Pourquoi on n'est pas capable d'avoir l'identité de ces gens-là qui sont responsables, alors que ce sont des gens qui sont payés par les payeurs de taxes, par les contribuables, et qui devraient donc être redevables?
Écoutez, depuis 2002, lorsque ma fille est assassinée, depuis 2002, je revendique que si on connaît le nom du juge qui condamne un individu à une peine bonbon, on devrait connaître le nom du fonctionnaire qui a libéré. C'est quelqu'un qui est payé avec nos taxes. Donc, à mon avis, il faudrait que cet individu-là soit imputable publiquement parce que, dans le fond, il y a une personne qui a perdu la vie, il y a une famille qui va poser des questions, et il faut quelque part que la commission ait une forme de responsabilité dans ce meurtre-là. Mais tout va être gardé confidentiel et secret. Ça, soyez-en assurés, c'est des systèmes hermétiques, c'est des systèmes qui se protègent, parce qu'il y a eu des cas, il y en a aujourd'hui et il y en aura d'autres demain.
Et voilà. Ben, j'avais pas tout entendu. J'ai écouté une partie de l'entrevue ce midi avec Eric. Je sais que tu l'as écouté pour sortir les extraits. Excusez-moi, on s'est un peu répété, là, mais c'est correct, là, c'est la même affaire. Tant que tu sais pas c'est qui font ce qu'ils veulent, tu vas avoir des monstres comme ça en liberté, puis des assassins dans nos rues. C'est comme ça.
Il y a un ex-détenu qui m'écrit pendant qu'on fait le segment, qui parle des libérations conditionnelles, puis il dit, pendant le processus de libération conditionnelle, donc avant qu'on passe devant la commission des libérations conditionnelles, on est accompagné par quelqu'un qui s'appelle un CX2, un espèce de gardien, qui nous conseille dans ce qu'il faut dire à la commission des libérations conditionnelles pour l'obtenir.
Il y a des phrases.
Les gens sont briefés. Ils sont briefés avant pour arriver à la commission de libération conditionnelle. Fait que ce qu'ils disent, c'est pas nécessairement ce qu'ils pensent franchement à l'intérieur d'eux, là.
Il y a des... Ben oui.
Bon, mais un professionnel est capable de reconnaître si quelqu'un meurt ou pas, ou j'espère, c'est supposé être ça, là.
Ta question est bonne. Maintenant, sont-ils professionnels, ces gens-là, qui prennent la décision de libérer les monstres? On les connaît même pas, t'as même pas son nom. C'est quoi leur éducation, leur diplôme? Est-ce que ce sont des psychologues, des psychiatres, des travailleurs sociaux? On sait même pas. On sait rien. Pierre-Hugues Boisvenu l'a dit, ce sont des intouchables qui joue avec la vie du monde, en libérant des gens comme ça, là. Peut-être que ce cas-ci, je sais pas. Moi, je suis cynique un peu, hein. Des fois, est-ce que dans une semaine, on va en parler encore? La fille de Pierre-Hugues Boisvenu, on a oublié. Mario Bastien, on a oublié. Alexandre Livernoche, ça. Dites-moi pas qu'on s'en souvient encore. Voyons donc, c'est le même système encore. Est-ce qu'on va oublier Marilyn aussi dans 2 semaines? On passe à autre chose puis c'est fini? Je sais pas.
Ouais. Puis Elisabeth, tu dis les professionnels sont habitués de savoir qui ment ou pas. L'ex-détenu en temps réel me dit, on est des criminels en prison, on est habitués de manipuler les gens. Sans dire long.
Il y a des anciens détenus qui ont côtoyé le meurtrier, qui nous ont également informé ici au 93 que même eux, à l'intérieur des cellules, se rendaient compte qu'il y avait un problème avec les femmes.
Oui.
Il y avait des bobites dans la tête, puis il y avait un problème avec les femmes.
C'était connu.
Oui. Là, il y en a d'autres qui disent, mais ça, on va vérifier qu'ils l'auraient croisé dans des différents ateliers là, de stress ou de je sais pas trop. Il y a des gens qui pensent l'avoir côtoyé récemment. Je peux pas
confirmer
ça. C'est
un peu bizarre qu'il y avait des problèmes avec les femmes, mais il y avait le droit d'y voir pour assouvir ses besoins sexuels. Ça, c'est sorti en passant.
Oui, ça, c'est vraiment bizarre.
C'est un peu bizarre, ça, par exemple.
Je l'ai lu dans la décision, là, grosso modo, c'est que dans ces conditions, pour sa semi-liberté, il devait tenir au courant son agente de tous les rapprochements qu'il va avoir avec une femme, développement de relations et tout ça. Et il avait jugé que pour son intégration à la société, il fallait qu'il ait le droit droit de rencontrer des femmes à des buts sexuels, mais que ce soit à condition d'être très transparent et de dire tout ce qu'il faisait, finalement.
Oui, et ça repose sur la confiance. Tu fais confiance à cet individu-là qui a déjà tué sa conjointe à coups de marteau, mais tu y fais confiance.
Et quelqu'un qui, dans ce rapport-là, est également décrit comme quelqu'un qui avait des traits de personnalité narcissique, c'est écrit noir sur blanc.
Et manipulateur, mais tu y fais confiance.
Et polytoxicomane.
OK. Mais tu lui dis, garde, tu as le droit de voir des femmes pour le sexe, mais donne-nous ta parole que tout va bien, puis raconte-nous, puis ça va être beau, on va se fier là-dessus. On va terminer. Tu as également fait une entrevue.
Oui.
Jean-Simon, on va revenir un peu. Je voulais d'abord parler de la victime. On a commencé avec ça. On a donné beaucoup de détails sur elle, pas juste sur son métier. Il reste que, on va finir avec ça, le fait que c'est une travailleuse du sexe a amené des gens à s'interroger parce qu'elles sont souvent l'objet de violences. C'est pas la première. Et il y a des gens qui se demandent si la prostitution était légale, s'il n'y aurait pas plus de sécurité pour ces femmes-là. T'en as jasé.
D'abord, Geneviève Quinté du projet Intervention Prostitution à Québec, elle s'est d'abord exprimée sur l'étiquetage. On en a parlé, l'étiquetage envers la victime. Elle trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis mettre une grosse étiquette comme celle-là, ça aidait certainement pas la cause.
Tu sais, je regarde les titres de journaux, on parle de cette jeune-là, de cette jeune femme-là, mais on insiste beaucoup sur le fait qu'elle est travailleuse du sexe. Mais, tu sais, au-delà du statut qu'on a dans une société comme la nôtre, tu sais, y a pas personne qui est responsable, tu sais, d'une violence subie, là. Qu'on soit travailleuse du sexe, qu'on soit caissière dans une caisse populaire ou autre, je veux dire, ça légitime pas parce que t'es travailleuse du sexe que ça légitime des clients à exercer une violence, soit parce que tu payes. T'sais. Je pense qu'elle avait aussi pris certaines précautions en avertissant des gens qu'elle allait se présenter à tel hôtel, tout ça, mais le risque zéro, ça n'existe pas. Ce gars-là, avec un potentiel de violence assez important, extrême, ben il a comme pigé le mauvais numéro. Là. T'sais.
Puis Geneviève Quinté, s'est exprimée sur la possible décriminalisation de la prostitution et surtout les mesures qui sont présentement, ce qui entoure la prostitution, en fait, c'est que ça criminalise les clients. Donc, quelqu'un qui se fait prendre et solliciter une travailleuse du sexe, c'est lui qui est imputable, qui peut se retrouver avec un casier judiciaire des accusations et non la travailleuse du sexe. Alors, j'ai demandé à Geneviève Quinté, qu'est-ce que ça avait comme effet sur les travailleuses du sexe présentement?
Ça empêche les filles de s'organiser puis de développer, en fait, de s'organiser autour de stratégies de protection. Les filles peuvent pas s'embaucher des tierces personnes qui pourraient assurer leur sécurité, qui pourraient les accompagner dans des déplacements. C'est criminalisé aussi là parce qu'ils profitent des fruits de la prostitution. Donc, ça les empêche de s'organiser. Effectivement, que la pression est maintenant sur les clients. Donc, c'est les clients qui sont traqués. Fait que c'est sûr que ça repousse ces clients-là à avoir des activités d'acheter des services sexuels, mais dans des endroits encore beaucoup plus loin, beaucoup plus repoussés, dans clandestinité, effectivement. Donc, ça vient vulnérabiliser.
Ouais, ça, c'est un autre débat. Moi, je pense que le premier débat à faire, c'est sur les libérations conditionnelles.
Oui.
Ça, c'est l'affaire majeure, comment ça se fait qu'il était dehors. Maintenant, compte tenu que ça s'est fait dans une activité, dans le cadre du travail du sexe, c'est pas un mauvais débat de faire ça aussi. Compte tenu qu'on est dans un monde où ce que des monstres se retrouvent en liberté, bon, ce que Geneviève dit, je la comprends, si elle avait eu un chauffeur. Pour assurer sa sécurité, la porte, là, la prostitution, on s'est déjà fait raconter comment ça marche. Des fois, il y a des chauffeurs qui accompagnaient les filles. Là, ils n'ont pas parce qu'ils ont peur de se faire pogner par la police et d'être accusés d'avoir vécu des fruits de la prostitution.
Exact.
C'est ça qu'elle nous dit, Geneviève.
C'est ça.
Il y avait des stratégies de sécurité que les filles peuvent plus faire.
Puis là,
alors, si on légalisait la prostitution, puis il y avait des genres de bordels plus sécurisés avec des portiers, des surveillants, est-ce que les filles seraient mieux protégées?
Tu te retrouves aussi avec un filtre négatif des clients parce que, tu sais, mettons que maintenant que c'est légal, que c'est pas légal pour les clients, là, prends le gars qui a un poste public, mettons un client qui lui fait ça, puis il est correct avec les filles, mettons, il fait ça, mais il veut pas que ça se sache, puis prend un criminel endurci comme Galaisé, là. Les deux savent maintenant que c'est illégal, qu'ils peuvent se faire pogner. Le bon client, entre guillemets, risque de laisser faire parce qu'il veut pas arrêter. Tu comprends? Puis le criminel endurci, lui, il s'en contre vous, là.
Je te comprends.
C'est un criminel endurci, fait qu'il va aller le faire pareil. Alors, les filles se retrouvent souvent avec des gens qui ont des mauvais comportements, des comportements violents, puis qui sont prêts à aller plus loin avec les filles.
Argument en faveur de la légalisation. Je veux pas trancher le débat, là. Puis pour moi, c'est pas le plus important, mais quand même. Il avait été barré du salon de massage où elle travaillait.
Oui.
Ça veut dire que dans ce salon de massage-là, je sais pas comment, il y a des témoignages, il y a de la sécurité, il y a un portier, je connais pas ça, là. Mais il y avait un système de sécurité pour faire en sorte qu'ils l'ont barré. Or, quand elle va dans une chambre d'hôtel, là, je fais aucun reproche aux gens de Sépia, là, eux autres, il va y arriver des clients, alors qu'au salon de massage, alors, il y avait un filtre, au moins. La preuve, il a été barré. Alors, s'il y avait eu des bordels, est-ce que on aurait pu mieux protéger les travailleurs du sexe? Vous en pensez quoi? Sur 25226. Pour le reste, checkez bien ça. D'ici, je fais une prédiction, là. Il n'y a personne qui va parler de ça au niveau de la commission des libérations conditionnelles. Je vais attendre. Peut-être qu'elle va me tromper, là. Mon défi, essayez de checker en fin de semaine si vous voyez une personne, un visage, un porte-parole, un responsable qui vient s'expliquer devant la population là-dessus. Ça m'étonnerait beaucoup.